RCF.
CF, nous continuons de parler, de découvrir ce qu'est le sacrement pour les malades avec le père Sébastien Guizioux. Pour commencer cette nouvelle émission, c'est la cinquième émission que nous consacrons à ce sacrement. Il est intéressant de dire que le rituel de l'Église a pris en compte, on peut dire, eh bien, ce qui est positif dans la culture contemporaine, Sébastien.
En effet, le rituel est caractérisé par le fait qu'il a accueilli les valeurs positives de la culture et de la sensibilité de l'homme contemporain face à la situation de la maladie. Dans le rituel, il y a au début ce qu'on appelle les préliminaires doctrinaux et pastoraux qui sont consacrés à la maladie et à sa signification dans le mystère du salut, et on peut lire qu'ils témoignent de cette rencontre de l'Évangile avec justement la sensibilité de l'homme contemporain. En fait, l'Église fait sienne l'angoisse et la conscience humaine qui rencontrent dans l'existence le problème de la douleur et du mal dans l'expérience de la maladie.
Et donc on peut dire que l'Église va, et dans ce sacrement pour les malades, va intégrer finalement ce qui se vit aussi dans la société pour lutter contre la maladie.
Oui, en fait, l'Église greffe sa mission évangélique sur cette lutte de l'homme contre la maladie sous toutes ses formes. Elle se situe comme ferment et lumière à l'intérieur de la conscience humaine. Elle révèle, on peut dire aussi, à l'homme la richesse des possibilités offertes par Dieu pour dominer la création et le mal. La maladie, perçue comme une atteinte à la santé, est une atteinte aussi à la vie donnée par Dieu. C'est pourquoi le malade, les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout le personnel soignant, ont aussi à combattre de toutes leurs forces la maladie.
Pour confirmer ce que vous dites, il est intéressant justement de voir que dans l'introduction du rituel, eh bien, on va trouver des notes qui sont pleines de bon sens et qui font référence à l'humanité d'une certaine manière.
Oui, en effet, dans ces notes doctrinales et pastorales dont je viens de parler, qui précèdent les propositions proprement liturgiques, on peut noter de nombreuses notations ou remarques qui sont pleines d'humanité, pleines de sens pastoral, sur la qualité de la présence, sur la patience dans l'accompagnement, sur le respect, la discrétion dans la rencontre ou dans l'offre des propositions, aussi sur la profondeur de l'écoute. Et c'est intéressant de regarder que d'ailleurs dans le rituel qui s'appelle sacrement pour les malades, sacrement au pluriel, il ne s'agit pas simplement de l'onction des malades, mais si on regarde le chapitre 1 des sacrements pour les malades, ça peut peut-être nous étonner, le chapitre 1 est intitulé « La visite aux malades », « La visite des malades ». Alors, est-ce que c'est un sacrement? On va dire que c'est plutôt un sacramental, c'est-à-dire que ça se rapproche du sacrement, mais il y a une importance fondamentale à la visite des personnes malades. Et on pourrait parcourir quelques numéros du rituel. Les numéros 21 à 26 de ce rituel, extrait du chapitre 1 sur la visite aux malades. Le prêtre et les chrétiens peuvent ainsi aider les personnes malades tout au long de leur itinéraire spirituel. Chez les malades, comme chez tout chrétien, cet itinéraire passe souvent par diverses phases, entre autres celles-ci que nous allons commenter dans un instant, la découverte du sens de la vie, la rencontre de Jésus-Christ dans l'épreuve, une démarche de prière, ou encore une rencontre avec le Christ à travers les sacrements.
Alors revenons au premier aspect, une découverte du sens de la vie.
Un des services à rendre est de faire entendre une parole de foi sur la vie des personnes qui sont malades. Et pour cela, le prêtre ou le diacre, le laïc, saura cheminer avec chacun et l'aider à partir de son histoire, à faire une relecture de sa propre vie, à donner un sens positif à sa situation nouvelle et à s'ouvrir aux réalités de la foi. Le rituel indique quelque chose d'important ici. Il ne s'agit pas de dire de bonnes paroles, mais d'abord de saisir comment chaque malade vit sa situation personnelle, selon son âge, sa maladie, son histoire, son niveau de foi, etc. Notre vie est le lieu où s'accomplit l'action de Dieu, le lieu où se révèle la vraie vie.
Un autre aspect lors de cette visite des malades, une rencontre de Jésus-Christ dans l'épreuve.
Les malades aussi ont souvent besoin d'être encouragés par d'autres. Et c'est ainsi qu'ils arrivent progressivement dans la foi à vivre leur situation en communion avec le Christ, qui donne sens et valeur à toute la vie chrétienne. Cette démarche des malades suppose souvent du temps, bien sûr. Une vie que vient bouleverser la maladie ne conduit pas de soi vers Jésus-Christ. Alors, pour aider les malades, on saura éviter les discours pieux, qui souvent ne sont plus reçus. Mais on cherchera, pour chaque malade, les voies d'accès qui peuvent le conduire à cette rencontre avec le Christ et à la communion à son amour jusque dans la souffrance. À l'imitation de saint Paul, on invitera les malades, comme tout chrétien, à faire offrande à Dieu, non de leur seule souffrance, mais de toute leur personne, de toute leur vie, comme l'indique la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 1. L'offrande de soi est le geste d'un croyant qui prend sa vie en charge pour en faire, par amour, une réalité positive en Jésus-Christ.
Si on avance un peu, c'est aussi quand on va à la rencontre des malades, invités à vivre une démarche de prière qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs.
Non, parce que, et c'est sûr, certains malades rencontrent des difficultés à prier. Ça peut être dû, par exemple, à la faiblesse physique ou psychique causée par la maladie et les calmants, ou encore à une fausse image de Dieu ou de la prière. Il s'agit donc de faciliter aux malades cette démarche de la prière, propre à tout chrétien, et aussi un service fraternel. La prière exprime une relation de foi, d'espérance et d'amour avec Dieu. En elle, le malade peut puiser la force d'âme nécessaire pour affronter les difficultés de son état. Alors convient que les malades soient amenés à prier, soit seuls, soit en groupe avec leur famille, leur entourage ou ceux qui les soignent. Cette prière pourra trouver sa source dans la Sainte Écriture. Elle pourra être une méditation sur la personne du Christ et son attitude devant la souffrance. Elle pourra prendre aussi appui sur la prière des psaumes, par exemple, ou d'autres textes du même genre.
On peut dire que les prêtres auront aussi à cœur de venir prier avec les malades.
Oui, ça fait partie aussi de leur ministère. Les prêtres vont rencontrer aussi, bien sûr, des malades en EHPAD, à l'hôpital. Et lors de leur rencontre avec un malade, ils pourront proposer, sous forme de brève célébration de la parole, une prière commune dont les éléments pourront être choisis dans un dialogue fraternel. Et à la lecture de la parole de Dieu, on ajoutera une prière en rapport avec la vie de la personne malade ou inspirée de l'Écriture sainte, tirée des psaumes ou de litanies ou d'autres oraisons, ou d'un livre de prière, par exemple, connu du malade. Et à la fin, le prêtre pourra bénir le malade en lui imposant éventuellement les mains.
Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est que finalement, à travers cette visite des malades, ce sacrement pour les malades, ce que l'on cherche à proposer, c'est une rencontre avec le Christ à travers les sacrements.
Et on peut dire que chaque personne malade, quel que soit son chemin de vie et de foi, elle vit un itinéraire spirituel. Et dans cet itinéraire spirituel de la personne malade, la rencontre avec le Christ à travers les sacrements de l'Église prend alors tout son sens. Et les chrétiens, les prêtres, les laïcs veilleront à préparer progressivement les malades à participer, alors chacun selon son rythme propre, bien sûr, au sacrement de la pénitence, c'est-à-dire la confession ou de l'Eucharistie, et surtout à recevoir en temps opportun l'onction des malades et le viatique. Et dans le rituel, il y a un certain nombre justement de prières, de gestes qui sont proposés et qu'il faut adapter à la situation de la personne qui est malade.
Et nous allons en parler dans quelques instants sur RCF. Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le Père Sébastien Guizou, nous parlons du sacrement pour les malades. Et nous allons regarder dans le rituel justement ce qui est dit de la manière de vivre dans ce sacrement. La première chose à retenir, c'est que ce sacrement pour les malades peut être et doit être adapté à chaque malade.
Oui, c'est ce que je viens un petit peu d'exprimer, c'est-à-dire que le rituel indique bien que le ministre, c'est-à-dire celui qui va être le serviteur du sacrement, tiendra compte des besoins et des circonstances, mais aussi des désirs des malades et des autres fidèles. Il sera avant tout attentif à l'état de fatigue de chaque malade et à l'évolution de son état physique dans la même journée ou au cours de la célébration. Et cette attention, dit le rituel, amènera parfois le ministre à abréger la situation. Donc on voit que vraiment on va prendre en compte d'abord la vie du malade et adapter le sacrement, le déroulement de la célébration à partir de la vie de la personne qui est malade. Il est aussi indiqué qu'en l'absence d'une assemblée de fidèles, le ministre fera se souvenir que entre lui et la personne malade, à eux deux, ils sont déjà l'Église. Voilà, c'est déjà. Faut se rappeler la parole de Jésus. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Deux chrétiens qui se réunissent pour prier, le Christ est là au milieu d'eux et ils forment déjà l'Église. Et on peut dire aussi que avant ou après la célébration, celui qui préside cherchera à faire manifester l'affection et le soutien de la communauté pour cette personne malade, soit par lui-même, soit par tel membre de la communauté locale, si bien sûr le malade en est d'accord.
Et on va dire que ce qui compte vraiment, on l'a déjà évoqué, vous avez commencé de l'évoquer, mais c'est que le ministre, eh bien, vraiment s'adapte et adapte les possibilités prévues par le rituel en fonction de ce que vit et de la situation du malade.
Oui, et pour mieux exercer sa responsabilité pastorale, toujours au bénéfice spirituel des malades, ce ministre prendra le temps de découvrir les richesses de ce rituel. Et en particulier, ça sera important pour lui de bien connaître le schéma essentiel de chaque sacrement, sa signification aussi, le rôle des rites, de l'écoute de la parole, le sens des gestes, des prières importantes. Et puis, il pourra aussi repérer ce qui peut être objet de choix ou d'adaptation. Connaître ses possibilités permettra de choisir en temps opportun la meilleure formulation de la prière pour tel ou tel malade, pour son entourage aussi, et de mieux accorder la célébration à la situation et aux capacités de participation des fidèles présents.
On peut dire que la plupart du temps, le sacrement des malades n'est pas donné dans une situation d'urgence. Ça, c'est important de se le redire aussi.
C'est important parce qu'on a toujours dans la tête l'extrême onction. Voilà. Ça, et souvent, d'ailleurs, moi-même, quelquefois, quand j'étais appelé pour donner le sacrement, on a attendu le dernier moment, on appelle le prêtre, et puis quand on arrive, ben, la personne, elle est déjà dans le coma. Alors, c'est pas le. Bien sûr, on peut donner le sacrement et la grâce sera communiquée, mais c'est important de bien se rappeler que ce sacrement ne se donne pas normalement en cas d'urgence. On peut le donner bien avant, en préparant bien la célébration, et ce sera tout bénef, j'ai envie de dire, pour tout le monde, pour le malade et pour son entourage. Et donc, il est possible et même souhaitable de préparer toujours la célébration en tenant compte des personnes et des circonstances. Et dans cette perspective, tout en conservant la structure générale du rite, eh bien, on saura se laisser guider par l'intérêt spirituel, les possibilités des participants. On saura préparer la célébration dans la mesure du possible avec les malades et leur entourage. Et on voit bien que c'est très important parce qu'on vivra d'autant mieux la célébration si elle est préparée un petit peu à l'avance. On pourra choisir les textes bibliques aussi avec la personne malade ou l'entourage, les oraisons, les prières, les gestes. On pourra adapter aussi la structure de la célébration aux circonstances du lieu et de personnes. C'est sûr que personnellement, j'ai été, par exemple, donné le sacrement de malade à une personne âgée dans sa maison. Mais ce n'est pas pareil que quand je suis allé donner le sacrement des malades dans une chambre d'hôpital. Voilà, on sait toujours adapter la célébration au lieu dans lequel on le célèbre. La célébration de chacun des sacrements doit être à la fois simple et vraie, priante et imprégné d'espérance et de foi. Il s'agit toujours d'une rencontre avec le Seigneur au sein de l'Église. Et la célébration du sacrement de l'onction des malades ou de l'Eucharistie au sein de l'Assemblée revêt une grande importance. Elle facilite une solidarité entre malades et bien portants. Elle est vécue dans une atmosphère festive, fraternelle, surtout là où elle est préparée en commun. Elle nourrit la foi, l'espérance des participants et elle fortifie leurs engagements. Elle révèle enfin les sacrements comme des signes de l'alliance entre Dieu et son peuple.
Et nous allons continuer de parler donc de ce sacrement pour les malades en se demandant maintenant et en regardant justement toujours à partir du rituel comment ce sacrement peut se célébrer.
En effet, il y a plusieurs manières de célébrer le sacrement de l'onction des malades. Il peut avoir lieu en diverses circonstances, selon le nombre des personnes et le temps dont on dispose. Alors, on peut envisager trois types fondamentaux de célébration. La première manière de faire, c'est dans un groupe restreint, c'est-à-dire pour un malade ou quelques malades. Dans ce cas-là, on peut célébrer l'onction en dehors de la messe, c'est-à-dire qu'on célèbre simplement, il y a la parole de Dieu, un accueil, la parole de Dieu, le rite de l'onction et une conclusion. On peut aussi, avec un petit groupe de malades ou même un malade, on peut célébrer l'onction au cours d'une messe. Voilà. Et donc, le rite de l'onction est donné au cours de l'Eucharistie. Deuxième grande manière de célébrer l'onction des malades, c'est à l'occasion d'un grand rassemblement. Par exemple, lors d'une fête paroissiale ou une messe du dimanche, par exemple, on peut célébrer l'onction au cours de la messe pour bien manifester et pour rappeler à toute l'assemblée que c'est un signe de la tendresse de Dieu pour celles et ceux qui sont malades. Parfois, ça permet aussi de démystifier un petit peu le sacrement parce que ça montre à tous que, justement, ce n'est pas l'extrême onction, c'est un sacrement qui est donné pour toute personne en cas de maladie et qui peut encore se déplacer, qui participe à l'assemblée du dimanche, par exemple. Et alors, éventuellement, on pourrait aussi célébrer au cours d'une célébration de la parole sans l'Eucharistie, mais une assemblée paroissiale ou par exemple, une célébration de la parole de Dieu avec des malades qui viennent de différents EHPAD, par exemple. Voilà. Donc là aussi, pendant la messe ou en dehors de l'Eucharistie, avec un grand groupe de personnes. Puis la dernière manière de célébrer, c'est en cas de péril prochain de mort ou en cas d'urgence. Et là, on a des rites qui sont les rites essentiels qui sont célébrés de manière précise.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous, nous parlons du sacrement des malades avec le Père Sébastien Guizioux. Alors nous allons regarder maintenant le rite de l'onction des malades avec différents moments, la rencontre, la lecture de la parole de Dieu, la liturgie du sacrement et le temps de la conclusion. Alors commençons par la première étape, on peut dire, dans ce rite, et il en est question d'ailleurs dans le rituel, c'est ce qu'on appelle la rencontre, c'est d'une certaine manière l'entrée dans la célébration.
Le rituel nous indique bien qu'il est souhaitable que l'onction des malades soit célébrée dans un climat de prière, de paix, et si possible même de fête, avec l'importance de l'aménagement du lieu de la célébration qui se fait dans ce sens en tenant compte bien sûr des usages locaux, des mentalités et des possibilités pratiques, par exemple disposer une croix, des fleurs, une bougie allumée. Et il est bon aussi de prévoir une petite table où le prêtre pourra déposer l'huile bénite ou l'huile à bénir, ainsi qu'éventuellement le pain eucharistique, la custode, donc avec l'hostie consacrée. Alors, lorsque l'onction des malades est donnée à un malade qui n'est pas alité, celui-ci peut venir recevoir le sacrement à l'église ou dans un autre lieu qui convienne. On lui aura aussi préparé un siège, nous indique bien le rituel, et il aura suffisamment de place, au moins pour ses proches et pour ses amis qui sont venus l'entourer pour cette célébration. Pour préparer cette célébration, on s'inspirera des indications qui sont données dans le rituel. Aucun rituel, en effet, ne saurait dispenser un ministre d'exercer avec discernement son sens pastoral, ni tenir compte de la diversité des personnes. Il faut toujours tenir compte de la spécificité de la situation dans laquelle on se trouve. Et comme pour la préparation et la célébration des autres sacrements, le ministre saura préparer la célébration et user des possibilités d'initiative, de choix et d'adaptation. Alors, si le prêtre doit aussi entendre le malade en confession, ça peut arriver, il le fera autant que possible avant la célébration de l'onction. Mais si cependant cette confession doit avoir lieu pendant le rite de l'onction, elle se fera au tout début du rite.
Alors on peut dire que le malade, ses proches, sont invités aussi à échanger avec le prêtre, avec le ministre.
Oui, parce qu'encore une fois, on tient compte de la situation dans laquelle on est. On peut prendre le temps de se donner des nouvelles, de se connaître, de préparer ensemble la célébration, de se mettre en condition. Et le prêtre aussi, c'est important qu'il soit attentif à l'état actuel de fatigue de la personne qui est malade pour mesurer la durée de ce premier échange et prévoir si c'est utile d'abréger la célébration qu'il avait prévue, parce que quelquefois on a prévu une célébration qui peut durer un petit peu, puis quand on voit comment la personne est fatiguée par exemple, on va adapter, on va raccourcir un petit peu ce qu'on avait prévu.
Et si ça se passe à l'hôpital, on va tenir compte de l'environnement.
En effet, on va respecter aussi les convictions ou le repos des voisins de chambre, si c'est une chambre à plusieurs lits, où la qualité des contacts habituels avec eux permettra aussi un climat de vérité. Et après cet échange préalable, le prêtre proposera aux participants de prendre une part active à la célébration, en s'assurant, si c'est possible, l'un ou l'autre des éléments qui leur reviennent. Par exemple, va confier à tel malade une lecture, les intentions de prière à d'autres personnes de la famille, par exemple, ou éventuellement un chant à quelqu'un qui peut participer de cette manière-là. Et ensuite, il va introduire la célébration, soit par une intervention libre, soit par une formule qui est prise parmi les rites. Et tous ces éléments peuvent bien sûr se combiner entre eux. Alors le prêtre aura aussi un souci de ne pas surcharger ce début de la célébration.
Alors voilà, donc il y a ce premier temps de la célébration avec la salutation, et puis après, il va y avoir le rite de l'eau bénite.
Personnellement, j'aime beaucoup une des formules de la salutation qui commence comme ceci, « Paix à cette maison et à tous ceux qui l'habitent ». Voilà, c'est vraiment la paix du Seigneur qui vient au tout début, et le Seigneur il donne sa paix, à ceux qui sont malades, à ceux qui vivent avec eux. Et donc on a besoin de la paix du Seigneur vraiment en ouverture de la célébration, et le fait de le dire, ça apporte aussi cette paix. Et puis on peut éventuellement aussi célébrer le rite de l'eau bénite dès le début, avec cette parole « L'eau donne la vie, cette eau nous rappelle notre baptême, nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et là, il est proposé que les personnes qui sont présentes, y compris le malade, s'il le peut bien sûr, fassent le signe de la croix avec l'eau bénite, faire le signe de la croix sur soi. Et puis vient ensuite une prière qui va ouvrir la célébration, et je vais simplement en dire une qui est prévue dans les multiples prières. Seigneur Jésus, Tu as dit par ton apôtre Saint Jacques, si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, écoute notre prière. Regarde avec bonté celui, celle, avec qui nous te prions aujourd'hui, et accorde-lui la force dans l'épreuve. Donne à tous ceux qui souffrent le soutien dont ils ont besoin, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Et cette célébration de l'onction des malades va se poursuivre après par un temps plus pénitentiel.
Oui, le prêtre peut dire par exemple, avant de célébrer l'onction des malades, laissons-nous réconcilier par Dieu, demandons-lui pardon, pardonnons-nous les uns les autres. Alors on peut dire plusieurs prières, le « Je confesse à Dieu » ou des invocations au Christ. Et il termine par cette monition « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. »
Eh bien, c'est sur cette parole que nous achèverons cette émission. Nous continuerons de parler de ce rite de l'onction des malades lors de notre prochaine émission. On en reviendra au temps de la parole de Dieu et puis à la liturgie du sacrement elle-même. Sébastien Guizou, merci beaucoup et à bientôt.